dingue, grandeur nature dans une vitrine, montrant à Lysante eh bien un os d'Homo sapiens. Et c'est visité aujourd'hui par tous les Chinois, parce que c'est pour eux ça a une dimension fantastique. Et vous avez dans ce grand site une statue, un buste de 2 mètres de haut du père Teilhard. Voilà. Il faut aller en Chine pour voir cela. Hein, je l'ai vu il n'y a même pas un mois, hein, pour dire quand même le souvenir qu'il a laissé dans ce pays. Et les paléontologues chinois continuent de parler de Teilhard de Chardin, parce que c'est lui qui a fondé, parce qu'il respectait beaucoup les Chinois, et notamment les intellectuels chinois de son temps, il a fondé l'école chinoise de paléontologie, qui, à partir de Teilhard, est devenue maintenant une école qui, en paléontologie, est tout à fait du niveau international, hein, au niveau des publications. Voilà. Le souvenir de Teilhard en Chine. Alors, l'autre grand souvenir, c'est de notre site à côté de Pékin, qui s'appelle Shukutian, où là, eh bien, on a trouvé, mais Teilhard ne l'a pas trouvé seul, c'est lui qui a fait la datation, parce que, comme c'était un géologue de formation, il avait la capacité à l'époque de dater suivant les gisements où on trouvait les outils et les squelettes. On pouvait faire la datation par les couches géologiques. C'était les géologues qui faisaient ça. Et il avait daté de 300 000 ans avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est plutôt daté de 500 000 ans. C'est plus un homo sapiens, c'est beaucoup plus primitif. C'est ce qu'on appelle un homo erectus, qu'on a à l'époque désigné sous le nom de Sinanthrope de Chine, Sinanthropus pekinensis, hein, voilà, puisque c'est à côté de Pékin, c'est l'autre grand site, alors là aussi, où on parle d'abondance de Teilhard de Chardin, quand, et il y a un musée remarquable aussi, dont les Chinois ont mis ça fortement en valeur, voyez-vous. Alors j'ai fait ça il y a même pas un mois, mais j'étais très content de faire ce voyage, hein, et sur les pas de Teilhard, presque un siècle après son passage, puisque le premier site, c'était en 1923. Et c'est en 1923 que, dans cette même Mongolie, dans un autre lieu qui s'appelle les Ordos, le désert des Ordos, il va composer sa Messe sur le monde. Grand texte célèbre que certains d'entre vous, certains, ont dû lire. Okay, voilà. Pour donner ce souvenir récent. Et voilà. Je vous laisse dire la suite, alors.
Du coup, vous allez justement nous parler de Teilhard de Chardin et peut-être nous présenter un peu sa vie et nous expliquer en quoi c'est un personnage qui est important pour comprendre le rapport, qui a joué un rôle important dans le rapport entre la foi...
Et la raison. Et ça n'a pas été sans mal pour lui. Parce que le malheureux, il s'est fait crosser, durement. Et... quand il était, avant de partir en Chine, alors, il était, quand il était en 23, c'était une mission du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais il va être obligé d'y retourner en 26. Et là, c'est pas pour une mission d'Histoire Naturelle, c'est quand on veut l'exiler. Alors, notamment au cours de cette période-là, dans ces années, début des années 20, comme c'est un prêtre, un jésuite, un spirituel, qui a des idées, il intervient notamment dans de nombreuses aumôneries d'étudiants, dont notamment, tenez-vous bien, dans l'aumônerie de l'École normale supérieure, où il a donné de très nombreuses conférences à l'époque. Hein, et il avait un très grand succès. Et ce succès était connu des autorités religieuses. Et quand il est devenu suspect pour une note qu'il avait rédigé, note purement, qui n'était pas destinée à publication, qui était uniquement de réflexion entre pairs, quoi, pour discuter en petit groupe, qu'il avait rédigé sur le péché originel, hein, où évidemment il mettait en question le mythe fondateur du récit du chapitre 3 de la Genèse concernant la chute, en disant que ça ne pouvait pas être historique. On peut faire une lecture symbolique, ce qu'on fait aujourd'hui. Certainement pas. Il faut être créationniste américain pour faire une lecture historique, littéraliste. À ce moment-là, il est devenu suspect à Rome. Et comme on a considéré qu'il avait trop d'influence sur la jeunesse, donc sur des gens comme vous, hein, Eh bien, on a dit, on va l'envoyer le plus loin possible, où il y restera tranquille. Et comme il avait très bien réussi dans sa première mission, puisque c'est un remarquable paléontologue, eh bien, on va l'envoyer en Chine. Comme ça, il ne fera pas de dégâts sur les jeunes étudiants français. Et c'est comme ça qu'il est parti en 1926 en Chine, où il restera jusqu'à 1946, 20 ans, avec des retours en France quand même de temps en temps. Mais dès qu'il était en France, il ne fallait pas qu'il y reste trop longtemps, parce que surtout à partir du moment où il commence à être célèbre en tant que paléontologue, on dit il a trop d'influence, ce monsieur. Hein, et il a été suspect toute sa vie au niveau de l'autorité hiérarchique de Rome. Tous les livres qu'il a voulu publier sur ces domaines-là, tous les nombreux essais qu'il a rédigés, il n'a jamais obtenu l'autorisation de les publier. Comme c'était un jésuite, vous connaissez la devise des jésuites, hein, obéir jusqu'à la mort, si nécessaire, il a obéi, il s'est soumis. Et c'est seulement après sa mort que sa secrétaire, qui l'avait fait légataire universel, a publié toutes les œuvres religieuses, philosophiques, de Teilhard de Chardin. Son œuvre scientifique, elle a été publiée en tant que paléontologue, elle ne posait pas de problème. Hein. Tant qu'il parlait sur le fémur du synanthrope, sans difficulté, le jour où il commençait à dire « Mais attention, ce fémur, c'est celui d'un synanthrope », qui, voyez-vous, commençait déjà à être fortement intelligent, parce qu'il avait domestiqué le feu, hein, on trouvait des traces de foyer, ses outils, déjà en silex éclaté, ils étaient très efficaces comme armes de chasse, donc on était vraiment dans une voie évolutive qui, nécessairement, sur quelques millénaires, c'est quand même de 500 000 ans à 50 000 ans, hein, l'homo sapiens apparaît il y a 120 000 ans à peine, va nous mener à l'homme moderne. Alors là, on disait, attention, ce que vous dites, ça commence à gêner les théologiens de l'époque, et ils ne pouvaient pas l'écrire. Voilà, en gros, l'histoire du malheureux Teilhard de Chardin. Hein. Voilà.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un peu, juste dans les grandes lignes historiques, sa formation
c'est... Alors, Teilhard... Et je vais vous le dire, ça. Il naît en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, à Sarcenat, d'une famille de hobereaux locaux. Un père très, très bien formé, très, très cultivé, une sorte d'érudit local, qui a fait l'école des Chartes. Une mère très pieuse, qui a notamment une dévotion pour le Sacré-Cœur de Jésus, à Paray-le-Monial, et il est le troisième d'une fratrie de 11 enfants. Hein. Et il naît je vais vous donner la date exacte, c'est le 1881. Il naît donc dans le 8 mai, je crois. À Sarcenat, à côté de Clermont-Ferrand. C'est un garçon très doué qui fait ses études chez les jésuites à Chalon-sur-Marne, au lycée de Montgré, et puis qu'il est aussi doué pour les lettres que pour les sciences. Et il adore notamment les sciences et la géologie, hein, parce qu'il s'est baladé dans les environs de son pays, où il y a beaucoup de volcans, les volcans l'intéressaient. La petite histoire raconte qu'à l'âge de 4 ans, eh bien, avec sa petite sœur qui avait un an de moins que lui, ils étaient partis en cavale très loin sur la route pour aller explorer le fond d'un volcan. Ça, c'est les souvenirs de famille. Est-ce que c'est vrai? Je ne garantirai rien. Mais c'est ce qui se racontait dans la famille. Et il avait un amour pour les pierres. C'est pour ça qu'il est devenu géologue. Mais comme il avait aussi, en même temps, une véritable foi religieuse qui lui avait été confiée, qu'il devait à sa mère principalement, petite histoire intéressante, sa mère était une arrière-arrière-petite-nièce de Voltaire, lequel devait se remuer dans sa tombe en la voyant tous les matins se lever à 6 heures du matin pour aller à la messe matinale à l'église d'Orcière, qui est à côté de Sarcena. Hein. Bon, ça, c'est les histoires de famille. Alors, il va hésiter. Il fait d'abord un baccalauréat de philosophie, mais comme il reste un peu sur sa faim, après son cursus secondaire, il va rester. Il se donne une sorte d'année sabbatique à Clermont-Ferrand, où il va passer le baccalauréat scientifique de mathématiques élémentaires de l'époque. Et à ce moment-là, eh bien, tous les voiles sont ouvertes. Et puis il décide, au bout de cette période-là, d'entrer novice chez les jésuites à Aix-en-Provence. Il va donc entreprendre une grande formation de jésuites qui va l'amener à la fin de son cursus, qui se déroule en Angleterre, à Hastings, en 1911, à la fin de sa formation de jésuite, il est ordonné prêtre à ce moment-là. Alors pourquoi Hastings en Angleterre, me direz-vous? C'est qu'entre-temps, il y a eu les lois liberticides sur les congrégations qui ont fait que tous les enseignements, les formations supérieures dans les noviciats et les séminaires ont dû s'exiler, dans les congrégations notamment, pas les séminaires, ont dû se faire être fermés et se sont ont installé dans tous les pays du voisinage pour former leurs novices. Et les jésuites avaient donc installé leur noviciat pour partie à Jersey, et pour la première partie, la partie de la formation intermédiaire sur la rhétorique et la philosophie, et puis pour la théologie, c'était Hastings en Angleterre. Et c'est comme ça que Teilhard a terminé ses études à Hastings. Donc, vocation religieuse, mais en même temps, en permanence intéressé par les sciences de la nature et la géologie. Donc, il est partout où il est géologue amateur, il s'intéresse aux fossiles, quand il est à Jersey, quand il est en Angleterre. Il trempe d'ailleurs dans une... comme petit géologue amateur, et dans la fameuse falsification de l'homme de Pitdown. Vous savez que ce faux fossile imaginé par un professeur britannique de paléontologie, qui était en quelque sorte un chaînon manquant entre le primate et l'homme. Et comme on avait trouvé des fossiles très anciens en Europe et rien en Angleterre, à l'époque d'un nationalisme ombrageux, les Anglais disaient « mais c'est pas normal, il faut que nous aussi on ait notre fossile ». Alors comme on ne le trouvait pas, on en a créé un de toutes pièces. C'était un faux. Mais au départ, ça a eu beaucoup de succès. Teilhard lui-même a été pris, parce qu'il était dans cette mouvance-là. C'est un fossile qui a été trouvé pas très loin de Hastings. Il y a cru, en réalité, ça s'est révélé être un faux, bien des années après. Hein. Et c'était un éminent professeur d'Oxford, très brillant, qu'il avait inventé pour pouvoir montrer qu'en Angleterre aussi, on avait l'équivalent de l'homme de Cro-Magnon, de l'homme de la Chapelle aux Saints, des Néandertaliens, qu'on avait trouvé en France ou en Espagne. Voilà. Alors, il hésite entre ces deux vocations. Et Hastings, il prend conscience que l'idée d'évolution, qui lui est familière par la géologie, qui est sa formation... Qui est son intérêt principal, et par la paléontologie, qui est son violon d'Inde, si j'ose dire, dans ses études de jésuite, que ce concept d'évolution est beaucoup plus large, beaucoup plus important que son application aux seules sciences du vivant. Que bien sûr, ça vaut pour le vivant, pour la biologie, mais que c'est un concept absolument universel qui vaut de manière générale pour tout le réel. Alors ça, il va le découvrir par deux lectures. Une lecture qu'il fait à Hastings, de l'ouvrage d'Henri Bergson, merci pour les philosophes, L'évolution créatrice, qui vient juste de sortir à ce moment-là. Il lit L'évolution créatrice. Et il va lire aussi en anglais l'œuvre de John Henry Newman, le grand cardinal, comme il l'appelait, parce que il va en parler en permanence dans ses écrits du temps de la guerre, tellement la personnalité de Newman l'a impressionné. Et il lit notamment de Newman ce fameux livre qui va faire de Newman qui va mener Newman à passer de l'anglicanisme au catholicisme, à se convertir à l'âge de 40 ans, alors qu'il est professeur à Oxford, éminent, reconnu comme une sommité de l'anglicanisme. Ce livre intitulé, en français, « Essai sur le développement de la doctrine chrétienne », qu'on traduit aussi quelquefois par « Essai sur le développement du dogme ». Que dit ce livre et que montre Newman ? C'est que le dogme, la foi chrétienne, la manière de l'exprimer en théologie, est quelque chose qui n'est pas stable à éternum, qui est quelque chose de figé, c'est quelque chose qui, en fonction de la culture de l'époque, des savoirs, va bouger, va évoluer. Que donc le concept d'évolution qui, désormais acquis au niveau des sciences du vivant, va trouver aussi une application dans les sciences religieuses. Et alors pour Teilhard, c'est la garantie que le concept d'évolution a véritablement une dimension universelle, puisque ça s'applique aussi à la foi chrétienne. Alors vous sentez bien que par rapport au discours dominant de l'époque en théologie, qui est très façonné à cette époque-là, nous sommes au début du XXe siècle, il y a eu la fameuse crise moderniste, où toutes les tentatives de lire la Bible avec les méthodes modernes de l'interprétation ont été condamnées. Le fait d'avoir cette idée-là, tout à coup, cette révélation, ben, c'est extrêmement dangereux. Ça va être un des éléments qui va le faire mettre à l'écart de tout ce qui s'est passé à l'époque dans l'Église et de son exil en Chine, qui va durer jusqu'en 1946. Et quand il va revenir de Chine, où il est un savant mondialement reconnu, il est membre de quantité de grands organismes scientifiques, notamment anglo-saxons, reconnus eh bien, aux États-Unis, reconnus en Angleterre, reconnus dans les pays d'Amérique latine, reconnus aussi en France, puisque dès qu'il revient de Chine, on va lui proposer de devenir directeur de recherche au CNRS, et qu'il va être contacté pour prendre un enseignement au Collège de France. Alors là, il demande l'autorisation de l'ordre, qui est refusé, donc il ne peut pas être professeur au Collège de France sur ordre du Vatican. Hein. Et à ce moment-là, comme il est en France et qu'il parle quand même, et qu'on trouve qu'il parle trop, que c'est dangereux, on dit non, il ne faut pas qu'il reste en France, alors on ne peut pas l'envoyer en Chine à ce moment-là, qui est en pleine révolution communiste. Hein. Alors on va l'envoyer où ? Aux États-Unis. Et il va partir aux États-Unis, En 1950, il a presque 70 ans, c'est déjà un vieil homme, qui a eu déjà une crise cardiaque importante, qui est fatigué. Il part aux États-Unis, il s'installe à New York, à la Green Foundation, qui est une fondation de paléontologie, qui va l'amener à faire deux voyages en Afrique du Sud pour expertiser des gisements d'australopithèques, alors avant même l'Homo erectus, c'est vraiment les premiers hominidés, les australopithèques et les Homo habilis, là où il va dire que, à son avis, l'homme, il sort d'Afrique, il sort un papier disant que l'homme, c'est là où il est né, hein, et après, ils sont sortis d'Afrique. À l'époque, c'est pas du tout sûr, ça. Ça va devenir bien longtemps après sa mort, avec les travaux de les découvertes, par exemple, faites par Coppens sur la Lucie, la petite australopithèque. Hein, bon. Et c'est à New York où il va mourir d'une crise cardiaque le 10 avril 1955, jour de Pâques. Et il avait dit un an avant, dans un dîner entre amis qui se tenaient au consulat de France à New York, qu'il aimerait mourir, parce qu'il sentait qu'il était fatigué, qu'il aimerait mourir le jour de la résurrection du Seigneur. Et c'est le jour de Pâques 1955, après avoir assisté à la messe à la cathédrale Saint-Patrick à New York, qu'il va, prenant le thé chez des amis l'après-midi, être foudroyé tout subitement par une crise. Voilà, c'est comment il est mort, et il est enterré à côté de New York, à Poughkeepsie, qui était l'ancien noviciat jésuite. Quand il y a eu le cinquantenaire de sa mort, qui a été célébré à New York aux Nations Unies, et dans différentes universités, l'université Columbia et l'université Fordham, qui est l'université jésuite. Bon, j'y étais, donc c'était une grande manifestation organisée par les Théardiens américains, qui sont très nombreux. Hein. Nombre d'études faites aux États-Unis sur Théard de Chardin sont extrêmement nombreuses et importantes. C'est là où il s'en fait le plus. On est allé visiter Poughkeepsie, où il y a la tombe de Théard, tombe très modeste, avec toute une série d'autres grands jésuites américains qui ont là, un cimetière tout à fait à la mode américaine, sans fioritures, très simple, il y a la tombe de Théard de Chardin. Voilà. Voilà en gros cette vie, c'est celle d'un aventurier de l'esprit, comme on peut le définir, un homme qui a fait plusieurs fois le tour du monde dans ses voyages en Chine, qui, au-delà des expéditions en Chine, en a fait en Birmanie, en Inde, en Java, en Éthiopie, sur les pas d'un brigand qu'il avait rencontré lors d'un voyage de retour en Chine, qui était Henri de Montfred, qui s'était pris d'amitié pour lui, et c'était réciproque. Et Henri de Montfred a écrit un livre, « Mes voyages avec Théard de Chardin », quand même, il faut le faire. Et il a donc été un globe-trotteur, un aventurier, un grand scientifique, et en même temps, quand on lit son œuvre philosophique, un immense penseur, et sa vision spirituelle et mystique, c'était un grand mystique. Quand on lit la messe sur le monde, c'est une œuvre de mystique, dans un français en plus extraordinaire, hein, une langue qui est fascinante. Et alors il y a d'autres, le milieu divin aussi, qui est ce grand ouvrage de spiritualité, est tout à fait étonnant. Paul VI disait du milieu divin, c'est le cardinal Poupart qui nous l'avait confié lors d'un colloque qui se tenait à Rome, à la Grégorienne, il y a quelques années, que Poupart, avant d'être recteur de l'Institut catholique de Paris et de devenir cardinal, avait été porte-serviette du pape Paul VI quand il était jeune séminariste, ou plutôt jeune prêtre en formation à l'université grégorienne à Rome. Et le pape Paul VI l'avait pris en amitié, et un jour, je tiens ce récit du cardinal Poupart, hein. Il l'avait pris, il a dit, mon jeune ami, je vais vous passer un livre que je considère comme le plus grand livre de spiritualité du XXe siècle. Mais comme je l'ai beaucoup annoté, j'y tiens, et quand vous l'aurez lu, vous me le rendrez. Ah bon, dit Poupart, extrêmement impressionné, mais oui. Alors il prend le livre. Qu'est-ce que c'était ce livre-là? C'était Le milieu divin de Théard de Chardin. Hein, c'est... Alors bien sûr qu'il a rendu après à Paul VI, mais à l'époque, on ne pouvait pas prononcer dans la haute hiérarchie de l'Église le nom de Théard de Chardin. Il y avait eu le Concile Vatican II, où Théard de Chardin apparaît dans un certain nombre de grandes constitutions qu'il a influencées, comme la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Dit, mais cette constitution, il y a des tas de résonances théardiennes, mais on ne dit jamais le nom de Théard de Chardin. On sait que la constitution la plus importante de Vatican II, la constitution sur la révélation, Dei Verbum. Verbum, texte absolument considérable, pas très long, mais vraiment essentiel, a été influencé par trois théologiens qui ont tenu la plume, la rédaction finale. Deux Allemands et un Français. Les deux Allemands, le premier, c'était le jésuite Karl Rahner. Le second, oui, ça vous fait sourire, pourquoi?
J'en ai parlé dans mon homélie.
Oui, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure. C'était le jésuite Karl Rahner. Le second, c'était le jésuite français Henri de Lubac, qui était un ami intime du père Théard, et qui va le défendre après sa mort, bec et ongles, qui a écrit pas moins de 5 livres sur Théard de Chardin. Le père Henri de Lubac, qui va être fait cardinal ensuite par Jean-Paul II. Hein. Et le troisième, c'était un grand théologien allemand qui se nommait Joseph Ratzinger, et qui connaissait très bien Théard, puisque dans son livre, qui est un best-seller de la théologie, la foi chrétienne hier et aujourd'hui, que certains, bon, de vous qui ont fait un peu de théologie peut-être, ont lu, parce que c'est un ouvrage de référence.
Ouais, ils vont tous le lire. C'est...
Ils vont tous le lire.
Ceux qui l'ont pas lu, ils vont
la,
lire.
La foi chrétienne hier et aujourd'hui de Ratzinger. Eh bien, Ratzinger parle de Théa en termes très positifs, et il n'hésite pas à dire que le père Théard a rénové la christologie. Hein, rénové la christologie, rien que ça. Hein. Et quand il va être pape, Benoît XVI, il va très parler d'abondance de Théard. Ce qui fait que, après, on parle de Théard, hein, Benoît XVI, le rôle de Benoît XVI a été très important. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, cite Théard au chapitre 2. Paragraphe numéro 87, je crois. Hein, si vous prenez l'encyclique. Il le cite au moment où il dit que la mission, vraiment la conception chrétienne de la création, c'est la montée vers le Christ, etc., qui récapitule tout. Donc c'est un très beau passage christologique. Et il met en renvoi un autre de bas de page. Et en autre de bas de page, il dit « comme l'a montré Théard de Chardin ». Voilà. Hein. Donc, ce qui veut dire que cette pensée qui a été suspecte pendant tout le vivant de Théard, qui en a souffert, qui a été la grande souffrance de sa vie, qui va, encore suspicion, qui va perdurer au moment de la publication de ses œuvres, tout de suite après sa mort, progressivement, ça va être reçu par l'Église, au point de devenir, avec Benoît XVI, un des éléments pour la nouvelle évangélisation. C'est ça que Benoît XVI va faire de la pensée théière. C'est un des éléments aujourd'hui. Vous savez, Benoît XVI, il était extrêmement sensible à un thème qui était aussi le thème que j'ai, qui m'a préoccupé toute ma vie, c'est le dialogue entre la raison et la foi. La synthèse entre la raison et la foi. C'est vraiment le motif de Benoît XVI, et c'est notamment un élément de son discours qu'il avait donné lors de l'inauguration des Bernardins, quand il était venu en France, qui s'adressait aux intellectuels français. Et ce dialogue entre la raison et la foi, je dirais que le père Théard en était tout au long de sa vie le modèle exemplaire. C'est ce qu'il a voulu faire, mais qui, de son vivant, a été totalement incompris, et qui n'est compris que maintenant. Donc, au fond, il a fallu 50 ans dans l'Église pour que cette pensée soit reçue. Aujourd'hui, elle l'est. C'est clair, mais 50 ans après sa mort et de son vivant, eh bien, le silence, l'interdiction de publier, hein, l'interdiction d'accepter des fonctions de rayonnement importantes comme professeur au Collège de France, l'acceptation de s'exiler, de quitter son pays, hein, voilà le point que ça représentait. Ceci pour dire quand même que nous avons là un cas véritablement extraordinaire d'héroïsme, de vertu héroïque. Et tout ceci du fait même de l'Église, de l'institution que l'on veut défendre. Parce que le problème de Théard, c'était bien. Tout ce qu'il écrivait, c'était pour arriver à convaincre les religieux de son temps, notamment les théologiens en cours à Rome. Et les théologiens en cours, c'était des néo-thomistes. Et on voit bien où était le problème. Ce n'était pas le problème de l'institution, hein, des papes, parce que, et même au niveau des générales des jésuites, c'était des gens plutôt ouverts, prudents, certes, mais qui étaient bienveillants. Mais c'était les penseurs officiels à l'époque à Rome, c'est-à-dire un groupe de théologiens néo-thomistes, dont on connaît les noms. De Lubac en a donné les noms. Hein, vous aviez dedans, eh bien... le futur cardinal Journé, il y avait eh bien, le dominicain Garrigou Lagrange, dont Théard, eh bien, quand il en parlait de Garrigoulade. Hein, voilà. Il y avait le carme Philippe de la Trinité, il y en avait comme ça, et il faisait la pluie et le beau temps. Et ils juraient et ils arbitraient au nom de saint Thomas, mais pas seulement de saint Thomas, aussi d'Aristote. Et on peut dire que, d'une certaine manière, la pensée de Théard de Chardin a été une victime indirecte et lointaine d'Aristote. Hein, 4 siècles avant Jésus-Christ. Voilà le poids de la philosophie quand elle s'inscrit dans le discours théologique. Et le fait qu'elle s'inscrive dans le discours théologique, c'est bien, parce que c'est une manière de faire un mariage entre la raison et la foi. La grande synthèse thomiste, c'est une synthèse remarquable entre la raison et la foi. Soyons clairs, c'est tout à fait ça. Hein. Mais une raison qui est la raison philosophique de l'époque, de la grande époque hellénistique, reprise par le Moyen-Âge, mais qui n'est plus du tout la raison telle que nous l'avions fonctionné au niveau aujourd'hui des sciences. Le problème, c'est que cette synthèse-là, elle ne peut pas être éternelle, elle doit être refaite en fonction de la situation de la raison, que la raison, elle dépend des savoirs, des nouvelles découvertes et tout. La raison qui vient des sciences, celle de la mécanique quantique, celle de la théorie de l'évolution, celle des grands systèmes technologiques que nous construisons, ça ne marche pas selon la physique d'Aristote. Je regrette. La physique d'Aristote, elle n'est plus tenable. Voilà. Et Teilhard a été victime de ça. Mais je dirais que ça, c'est classique. Dans toutes les institutions humaines, hein. Il n'y a pas que dans l'Église. Hein. Vous savez, moi, j'ai été universitaire un peu en pièces rapportées, mais j'ai vu comment on fonctionnait dans le monde de l'université de la recherche. Vous avez des effets de monde, des mandarinas, et quand une théorie est dominante, si vous amenez en disant le contraire, vous ne serez pas reçu facilement. Vous serez immédiatement contré. Hein. Il y a de très nombreuses histoires dans la science. Songez que la théorie, la génétique de Mendel, par exemple, qui était un brave moine, je crois, Augustin, dans un monastère allemand, qui a été génial, elle n'a été reçue que plus de 50 ans après qu'elle ait été élaborée. Parce qu'à l'époque, elle entrait contre les dogmes dominants en science, notamment en science du vivant, du positivisme. Et on considérait que la génétique ne pouvait pas être pensable. Elle a été éliminée pour ça. Hein. Et donc vous trouvez ce phénomène-là aussi dans le milieu académique. Hein. Donc ça a été ça, le problème de Teilhard, c'est qu'il a été victime de théologiens aristotéliciens. Hein, voilà, en gros. Beaucoup plus que des autorités magistérielles qui, elles, ont suivi. Hein, bon. Voilà.
Oui, peut-être que vous pouvez nous... Moi, ce que j'ai constaté, c'est... de la part d'un certain nombre de personnes, justement, que chrétiens cultivés, plutôt plus âgés que moi, mais que dans leur propre démarche de foi, André, ils avaient rencontré Teilhard et ça avait joué un rôle de réconciliation personnelle, peut-être ça.
Absolument.
Vous pouvez nous en dire un mot, pourquoi est-ce que finalement.
Alors, absolument, mais je dirais que.
Son travail,
j'en connais beaucoup, et ouais. D'abord, je me connais moi-même, parce que ouais. C'est exactement mon histoire personnelle. Hein. Mon histoire personnelle. C'est dans les années 50, nous sommes donc en 53-54, j'ai terminé des études d'ingénieur, et je démarre, pas en 53, non, en 55-56, je termine mes études d'ingénieur en 56-57, je démarre une recherche doctorale entre l'Institut français du pétrole et le CNRS, qui m'amènera d'ailleurs à soutenir cette thèse-là en 1960. Et j'ai eu personnellement, à l'âge de 16 ans, fait une expérience spirituelle qui m'a tout à coup enraciné dans le christianisme. Parce que c'était au moment de l'adolescence, on se pose des tas de questions. Et j'ai fait une rencontre, je crois, tout à fait authentique, mais qui n'était pas suffisamment nourrie sur le plan intellectuel. Et petit à petit, pris dans le monde scientifique de cette époque-là, je m'étais aperçu que ce que me disait le christianisme à l'époque, notamment au travers de doctrines comme, en effet, on retrouve le fameux péché originel de Teilhard et d'autres approches, c'était pas exactement ce que disait la science et qu'il y avait un hiatus considérable. Et j'étais sur la situation de perdre la foi, de quitter l'Église. Hein. C'était en 58, je crois. Et lorsque, par le plus grand des hasards, un ouvrage. Alors Teilhard, le premier livre est publié à la fin de 55, et en 56-57, il y en a trois autres qui sont publiés. Et donc moi, en 58, un livre de Teilhard me tombe sous les yeux, je me souviens très bien, c'était le tome 3, qui s'intitule « La vision du passé ». Je lis ça, je me dis « mais ça c'est vraiment génial, ce que cet homme-là écrit ». Et à ce moment-là, j'ai tout de suite acheté le tome 1, Le phénomène humain, qui était publié le premier, et le tome 4, Le milieu divin. Je lis Le phénomène humain et Le milieu divin, immédiatement, je suis resté dans l'Église, je suis resté catholique. Donc je dois à Teilhard d'être resté chrétien, ça c'est certain. Et alors, après, parlant à d'autres, je me suis aperçu du nombre considérable d'intellectuels chrétiens qui sont restés dans l'Église alors qu'ils auraient pu la quitter grâce à leur lecture de Teilhard de Chardin. Un nombre absolument étonnant. Hein. Il a eu cet effet sur ma génération. Hein. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas, on ne peut pas trouver d'équivalent, mais des gens qui étaient en doute, qui se posaient énormément de questions, immédiatement, ils sont restés dans le giron de l'Église par leur lecture de Teilhard de Chardin. En effet, et moi c'est mon cas. Et si je suis devenu théologien, je dirais c'est grâce à lui. Hein. Si je n'avais pas lu Teilhard quand j'avais, à la fin des années 50, j'avais un peu plus de 25 ans, hein, si je ne l'avais pas lu, je n'aurais certainement pas eu l'itinéraire qui m'a conduit aujourd'hui à enseigner la théologie au Collège des Bernardins et au Centre Sèvres. Ça, c'est... Alors, c'est un cas peut-être limite, mais beaucoup sont restés dans l'Église grâce à la lecture de Teilhard. Hein. Ça, c'est vrai.
Et est-ce que vous pourriez nous faire comprendre... C'est compliqué, mais on a peu de temps. Quelle est l'idée centrale chez Teilhard qui vous a permis à vous, puis à d'autres, de réconcilier pour eux-mêmes la raison, notamment la raison scientifique et la foi?
Voilà. Eh bien,
c'est quoi l'idée centrale de Teilhard?
L'idée centrale de Teilhard, là, c'est très simple, c'est son credo. Et qu'il écrit un texte qu'il écrit à la demande de Monseigneur, qui était le recteur de l'Institut de Toulouse, qui s'appelle Monseigneur Bruno de Solages, et qu'il écrit ça en 1934. Texte de 34 que vous trouvez dans le tome Science et Christ des œuvres, hein, des œuvres complètes. Teilhard, le credo de Teilhard, qu'on appelle le credo de Teilhard, il ne lui donne pas ce nom, mais c'est au fond, il dit ce que je crois, en quatre articles, hein, que je donne, je connais par cœur. Hein. Un, je crois que l'univers est une évolution. Je crois que l'univers est une évolution. On sort du monde statique des Grecs, parce que toute la pensée des Grecs, et la pensée des philosophes qui ont suivi, c'est d'avoir une vision statique du monde. C'est-à-dire que le monde a été fait, il est là, pratiquement, il ne bouge pas, parce que la première idée normale, c'est qu'en effet, on ne voit pas les mouvements des plaques tectoniques en géologie. C'est tellement lent que ça n'est pas perceptible pour une expérience humaine. On ne voit pas les phénomènes de l'évolution du vivant, qui prennent des millions d'années pour se mettre en œuvre. Donc on ne le voit pas. Hein. Donc on croit que l'univers est stable et fixe. Ce qui est la pensée grecque, c'est la pensée d'Aristote, c'est le fixisme. Hein. Et Teilhard nous dit, en effet, c'est la conviction à laquelle il arrive, après Hastings, je crois que l'univers est une évolution. Bon, c'est un premier point. Deuxièmement, question, mais cette évolution, où va-t-elle, où nous mène-t-elle? Et second article de son credo, je crois que l'évolution va vers l'esprit. Alors pourquoi peut-il dire ça? Parce que quand on prend l'évolution du vivant, il constate que cette évolution du vivant, la généalogie des êtres vivants, fait émerger au cours du temps des êtres vivants de plus en plus complexes, qui ont des systèmes nerveux de plus en plus eux-mêmes complexes, et que cette complexité du système nerveux fait émerger, on est dans un phénomène qu'on appelle l'émergence en systémique, fait émerger des psychismes de plus en plus riches jusqu'à l'émergence au niveau du sapiens sapiens de ce qu'il appelle pensée réfléchie. La pensée réfléchie, c'est une pensée qui se pense elle-même. Comme est écrit ailleurs, l'animal connaît, c'est la psychine, déjà là des animaux supérieurs, ils ont une sensibilité. Donc l'animal sait, mais seul l'homme sait qu'il sait. C'est ça la pensée réfléchie. Une pensée qui se reboucle sur elle-même. Ça, ça n'apparaît qu'avec l'être humain. Et le langage symbolique qui le permet, qui n'est pas du tout du même ordre que la communication animale. Je ne renvoie pas à des thèses aujourd'hui qui ont été développées sur la nature du langage en matière de linguistique. Alors, pour Teilhard, cette évolution va vers l'esprit. C'est la montée de l'esprit. Ces psychismes de plus en plus riches, c'est l'esprit. Donc je crois que l'évolution va vers l'esprit. Troisième article de son credo, je crois que l'esprit dans l'homme, culmine dans le personnel. Ce qui veut dire que le fait qu'il y ait une individualisation des êtres au niveau des humains, que chacun de ces êtres soit une pensée réfléchie à elle seule, c'est très important. On n'est pas dans une vision, je dirais, totalitaire de l'être humain. C'est pas le collectif. C'est, je crois, comme il le dit, que l'esprit dans l'homme culmine dans le personnel. Hein, et chaque personne compte. Là, c'est la dimension personnaliste de Teilhard qui va émerger chez lui très fortement à partir des années 35, au moment où il rédige ce credo, pratiquement, et où il est confronté au grand totalitarisme de l'époque, en particulier le totalitarisme fasciste, le nazisme, et le totalitarisme communiste, les deux. Les deux qui minimisent la personne par rapport à la collectivité. Hein. Donc, c'est la phase personnaliste. Donc, je crois que l'esprit culmine dans le personnel. Et le dernier article de Credo, du Credo de Teilhard, je crois que le personnel suprême est le Christ universel. C'est-à-dire que cette évolution vers l'esprit, elle va par convergence vers un point qu'il appelle le point oméga, qui est le point de la fin de l'histoire, si l'on peut dire, et ce point de la fin de l'histoire, il identifie au Christ universel, qui devient à ce moment-là un Christ cosmique, un Christ évoluteur, un Christ énergie, qui va doter de toute une série d'attributs qui grandissent énormément le Christ. Et c'est pour ça que le théologien Gustave Martelet, qui était un excellent connaisseur de Teilhard de Chardin, a écrit un livre sur la pensée de Teilhard, qu'il a écrit Teilhard de Chardin, ou vers un Christ toujours plus grand. Vers un Christ toujours plus grand. Hein. C'est ce qui fait dire aussi à Ratzinger que Teilhard a rénové la christologie. Hein. Nous avons avec Teilhard la synthèse théologique la plus christocentrée qui ait été produite par la théologie. Hein. C'est ça sa caractéristique. Le Christ est infiniment plus grand que tout ce que les théologiens ont raconté sur lui. Hein. C'est ce que Teilhard dit. Hein. Vous voyez, on ne peut pas, je dirais, être plus christologique que Teilhard, d'une certaine manière. Alors, c'est ce dernier article, c'est que toute l'évolution se fait pour nous conduire au Christ universel. Et que le culte chrétien, l'Eucharistie, elle-même n'est rien d'autre que le rappel de la présence de ce Christ dans la matière qui anticipe ce qu'il arrivera à la fin de l'histoire. Et là, je rappelle quand même un mot que je donne de mémoire, qui est du pape Benoît XVI, qui a, dans une homélie improvisée qu'il fait dans la cathédrale en Italie, là, dans le nord de l'Italie, près de Turin, il y était en vacances, nom m'est sorti de l'esprit. Bon, il fait une homélie improvisée sur l'Eucharistie. Très belle homélie. Et il dit à la fin, alors je le cite de mémoire, parlant de l'Eucharistie, nous aurons, dit-il, comme Teilhard de Chardin l'a dit, une liturgie universelle où l'hostie deviendra une grande liturgie où l'hostie deviendra liturgie vivante. Enfin, un mot comme ça, j'ai oublié tout à coup ma synthèse, la phrase, mais je vais la retrouver, ce qu'il en dit, si je le retrouve. Voilà. Ou non, nous aurons une liturgie universelle où le monde deviendra hostie vivante. C'est l'offrande de l'univers entier. Voilà. Et donc, c'est ça, la pensée de Teilhard. En quoi, au plan chrétien, elle est très séduisante, parce que c'est quand même une pensée qui est, je dirais, qui est une pensée qui donne le goût de vivre, qui donne de la saveur, qui donne de l'espérance dans un monde fortement désenchanté. C'est ça la caractéristique de cette pensée. Elle donne envie d'agir, elle donne envie de se battre, elle dit finalement, le monde, la nature, la création est une chose merveilleuse. C'est comme ça que commence aussi l'encyclique du pape François, quand il commence d'abord par le cantique de la création de François d'Assise. Il y a d'abord une louange à faire de cette création. Donc c'est aller à Dieu à travers le monde, non pas se séparer du monde, non pas s'évader du monde, ce que le christianisme à certaines époques a pu être, c'est traverser le monde pour en gros le ramener vers Dieu. Édith de la Héronnière, qui a fait une très belle biographie sur Teilhard, l'a intitulée « Teilhard de Chardin ou une mystique de la traversée ». Mystique de la traversée, c'est-à-dire une vision mystique qui est la traversée du monde, non pas pour s'en libérer, mais pour le transfigurer. Le monde transfiguré à la fin. L'Eucharistie annonciatrice de ce que sera cette liturgie où le monde lui-même, comme le disait Benoît XVI, deviendra hostie vivante. Voilà. Et ça, c'est bien le cœur de la pensée théologique de Teilhard de Chardin, qui avait d'ailleurs une vénération très grande pour l'Eucharistie. Un de ses amis, qui était par ailleurs plutôt agnostique, qui était un paléontologue anglais, je crois, j'ai oublié son nom, a écrit un livre de souvenirs sur Teilhard en Chine, en disant mes voyages avec Teilhard, et où il écrit dedans qui n'a pas vu Teilhard célébrer sa messe, n'a rien vu. Pour dire ça, alors qu'on n'est pas particulièrement croyant, c'était quand même quelque chose qui devait impressionner. Voilà ce qu'il dit dans son livre. Voilà.
Le temps pour des questions.
Voilà. Voilà, c'est ça, le texte de Benoît XVI, je l'ai lu. C'est la grande vision, c'était à Aoste. C'est dans mon papier, là, si je l'avais bien lu, je l'aurais... C'était à la cathédrale d'Aoste, faisant référence à l'Eucharistie conçue comme offrande du monde à un Dieu aimant et vivifiant. Benoît XVI, n'hésitez pas, comme un écho à la messe sur le monde, parce que ça, c'est vraiment l'esprit de la messe sur le monde de Teilhard, a cité explicitement Teilhard. Et Benoît XVI dit... C'est la grande vision qu'a eu Teilhard de Chardin, lui aussi. À la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle où l'univers deviendra hostie vivante. Voilà, Benoît XVI, citant Teilhard, c'était en juillet 2009, à la cathédrale d'Aoste. Mais je vous laisserai ce papier, vous pourrez le cours, qui est un peu un témoignage personnel en même temps, sur pourquoi je suis devenu théardien, quoi. Une question que vous m'avez posée, c'est parce que si je n'étais pas devenu théardien, je serais devenu agnostique. Ça, c'est clair.
Que disait donc Edith Thibault sur le mythe de la création? version du péché originel, justement, ce qui a gêné
oui.
le Vatican. C'était quoi sa position dessus? Parce que c'est qu'en tant qu'archéologue, on a un peu du mal à...
Ben, ce qui le gênait, c'est que Teilhard mettait en cause, je dirais, en question, les conceptions traditionnelles qui étaient celles du péché originel, qui était un péché considéré comme ayant une existence historique au début de l'humanité. Et il dit, mais écoutez, quand moi, paléontologue, je fouille les commencements de l'être humain, je ne trouve absolument pas trace de... d'un péché d'origine qui aurait eu les conséquences tragiques que la théologie, lisant, faisant une lecture quand même relativement littéraliste du chapitre 3 de la Genèse, dit, à savoir que c'est le péché qui a fait entrer la mort dans le monde quand même, hein, que le monde est sorti parfait des mains de Dieu et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il a été déchu. Hein, thèse qui a été reprise par saint Augustin dans sa théorie du péché originel, mais que les théologiens orthodoxes n'ont jamais reprise. Hein. Ça, c'est l'Église latine qui a tenu cette thèse-là. Et Teilhard dit, aussi loin que je fouille, je ne trouve pas trace d'un péché commis par un malheureux homo sapiens. Enfin, l'homo sapiens arrive, en gros, il y a 120 000 ans, hein, accès à la pensée symbolique, etc. Alors on sait que on a vraiment l'homme complet parce que c'est à partir de l'homo sapiens et du néandertalien qu'on trouve des sépultures. Les sépultures, c'est important parce que dans la forme même dont sont ces sépultures, ça dénote une idée d'un au-delà. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons n'est pas tout. Il y a un au-delà du monde que personne n'a vu, mais qu'on pense exister puisque on pense que les morts s'y trouvent. Hein. Et donc, ça, c'est la naissance de la pensée symbolique. Ça date de 120 000 ans à peine, hein. C'est récent à l'échelle de la paléontologie. Et il faudrait imaginer, c'est ce qui dit que le malheureux homo sapiens qui émerge à la pensée symbolique, tout de suite, le premier acte qu'il commence par faire, c'est créer un cataclysme cosmique et universel qui fait entrer la mort dans le monde. La mort a toujours existé avant au niveau des espèces vivantes. Donc c'est là où il y a un problème. Donc la lecture traditionnelle qui était faite de la faute d'Adam est quelque chose qui apparaissait absolument invraisemblable à Teilhard, qui pour autant ne mettait pas en cause l'existence du mal et l'existence d'une pesanteur et d'une propension au mal dans l'homme. Mais on ne peut pas l'expliquer de cette manière-là. Alors c'est en gros ce qu'il y a dans ce papier. Hein. Et pour lui, le mal... le péché originel, c'est un péché qui accompagne dès sa naissance l'être humain. C'est sa liberté qui est en œuvre, qui fait qu'il ne choisit pas forcément ce qu'il devrait choisir. Mais ce péché originel, en fait, il grandit avec l'histoire. Plus l'homme devient libre, plus l'homme a la maîtrise possible de l'univers, eh bien, plus finalement sa capacité de commettre le mal est grande. Je dirais que ça, nous sommes en train de le voir tous les jours. Ce qui fait que le péché, pour Teilhard, la pesanteur qui nous enchaîne au mal, n'est pas d'origine, le maximum du péché sera, à la fin de l'histoire, sera terminal. Et vous avez un texte de Teilhard sur la fin du monde extrêmement intéressant, où il retrouve d'ailleurs classiquement ce qui est dit dans les Apocalypses de saint Jean, mais que quand, à la fin des temps, cette... capacité de l'homme de liberté et de pouvoir en même temps sur la nature seront devenues telles, il y aura une grande bifurcation, comme disent les mathématiciens, une partie de l'humanité qui choisira eh bien, l'adoration, l'auto-adoration de l'homme, l'autre qui choisira au contraire de trouver sa plénitude dans Dieu, le Christ, bon, on retrouve les thèses classiques du corps mystique, de la communion des saints, etc. Et que cette grande bifurcation de la fin de l'histoire, ben, c'est elle qui caractérisera le choix entre l'extase ou eh bien, l'auto-adoration de, sans espoir de l'homme qui se prend lui-même pour Dieu, quoi. En gros, c'est ça. Et ça, c'est pas au début de l'histoire que ça se produit, c'est à la fin et tout au long de l'histoire. Le péché originel, il accompagne en permanence l'être humain. Hein, c'est... Et là, il reprend des thèses qu'on retrouve d'ailleurs chez des théologiens orthodoxes, mais que malheureusement, saint Augustin, qui a historicisé le péché originel, ne met sur une fausse piste et interdit de comprendre cela. Hein, parce qu'on trouve, avant saint Augustin, chez le théologien Irénée de Lyon, Irénée, c'est la fin du IIe siècle. Et chez Irénée de Lyon, vous avez une réflexion sur le péché d'Adam qui est extrêmement intéressante et qui n'est pas du tout de l'ordre de celle d'Augustin. Hein. Alors, je dirais que Teilhard de Chardin, il s'inscrit très clairement là-dessus dans la tradition irénienne et pas augustinienne. Hein. Mais vous savez, il n'y a pas que lui qui s'est inscrit dans la tradition de Saint-Irénée. Toute l'école franciscaine, avec au Moyen-Âge les théologiens Duns-Scot et Bonaventure, s'inscrivent aussi dans cette tradition-là. Ce n'est pas du tout la même tradition que celle d'Augustin. Mais Augustin a eu un poids très important dans la théologie latine, pas dans la théologie orthodoxe. Voilà. C'est...
Merci. Oui. Vous en êtes pris tout de même de manière, à mon avis, un peu injuste à l'école néo-thomiste, et notamment au père Grégoire le Grand, qui était quand même consulteur au Saint-Office, loué par le pape Pie XII en 1957.
Qui ça ?
Le père Grégoire le Grand, pour les services qu'il avait rendus pour la défense du dogme. Mais ce qui me gêne, surtout dans ce que vous avez dit, quant à la nécessité, quant au fait que la formulation du dogme était relative à la culture, à l'état de la culture, à l'état de la science, c'est que c'est exactement la thèse de Günther qui a été condamnée au premier concile du Vatican, l'erreur semi-rationaliste.
Oui, alors...
Je ne vois pas comment, en gros, sous prétexte d'évacuer l'aristotélisme...
Oui, vous avez raison de dire ça. C'est condamné au premier concile du Vatican. Le premier concile du Vatican, c'est 1870. Hein. Resituons l'histoire. Vous savez, à l'époque, le pape régnant, c'est Pie IX. Hein. Pie IX, c'est le pape de l'encyclique Canta Cura et le syllabus, hein, les erreurs qu'il faut condamner. Si vous lisez aujourd'hui le syllabus et Canta Cura, moi je l'ai fait dans mes études de théologie, je me suis aperçu avec horreur, que dans le syllabus, les 4/5 de propositions condamnées par Pie IX, je l'ai partagé. Alors j'ai dit, mais il y a un problème là quand même. Je fais des études de théologie à l'Institut catholique, et tout à coup je m'aperçois en lisant le syllabus que je suis condamné pour les 4/5 de ce que je crois. Hein. Donc il faut situer ça historiquement à cette période-là. C'est...
Je suis désolé, mais le syllabus interprété, donc remis en contexte avec les distinctions entre thèse et hypothèse, comme l'a fait Mgr Dupont-Loup, est toujours d'actualité, et Canta Cura fait partie du magistère pontifical. Le premier concile du Vatican est quand même assorti de plusieurs définitions infaillibles,
oui.
Et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait faire sauter une définition infaillible, et aussi on fait sauter une définition infaillible.
Ben vous pouvez penser ça, ben oui, vous pouvez penser ça, mais écoutez, moi je vous dis, je suis un jeune théologien malgré mon âge, j'ai 80 ans aujourd'hui, hein. Donc, mes études de théologie sont assez récentes. J'ai bénéficié, donc, dans mes études de théologie à l'Institut catholique, de toutes les évolutions qui avaient été impulsées par Vatican II. J'ai eu d'éminents professeurs, que ce soit dans tous les domaines, en exégèse, en théologie dogmatique, en théologie fondamentale. J'ai jamais été... Et au niveau historique, j'ai été amené à étudier toute cette période-là. Bon, les enseignements que j'ai reçus... relativise considérablement cette période de l'Église, qui est une période où l'Église a vécu dans une situation de forteresse assiégée par les erreurs du temps, parce qu'il y en avait, il n'est pas question de les nier, et que ça a complètement induit un certain nombre de positions prises à l'époque par Rome qui n'ont pas été tenues ou confirmées par la suite. Et vous savez, ce qu'a fait un concile, un autre peut le remettre en cause aussi. Non, hein. On est dans l'approche. Nous sommes dans l'approche. Nous sommes dans l'approche que donnait le cardinal Newman, le grand cardinal, comme disait, qui est l'histoire du développement de la doctrine chrétienne.
Hein. Si ça ne vous dérange pas, on va maintenant passer à la prière.
Merci.
On a l'habitude de terminer par les complis, si vous avez...
Ah, mais au contraire, j'aime ça, moi.
C'est encore quelques minutes.
Voilà. À qui je peux laisser le document, là?
En fait, on peut